Gloire à Dieu, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous pour pouvoir vous partager la merveilleuse parole de Dieu. C'est une bénédiction qu'on a de prendre du temps pour méditer sa parole. Nous sommes bénis parce que, comme on l'a déjà dit, mais il faut se rappeler les bontés de Dieu. Le fait qu'on soit là, des fois, on prend ça comme un gain acquis, puis on n'a plus de reconnaissance. Il n'y a rien qui est acquis dans notre vie. Tout nous est prêté. Tout est temporaire. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Chaque jour suffit sa peine. Vivons notre journée d'aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur de permettre qu'on soit là avec les frères et sœurs. Puis quand on sera là, la prochaine fois, on dira encore la même chose. Chaque fois, chaque chose qu'on a, nous mangeons. Merci Seigneur quand on mange. Quand on dort bien, merci Seigneur. Quand on n'est pas malade, merci Seigneur. Faut rendre grâce quand que ça va bien. Parce qu'il y a des moments que ça va moins bien. Puis quand que ça va moins bien, on arrête-tu de rendre grâce? On rend grâce pareil. Merci Seigneur pour les bons moments que j'ai eus en santé. Remercions le Seigneur en tout temps. Puis faisons monter des actions de grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Les humains ont été créés dans ce but-là. Qui de vous avez acheté une automobile puis que l'automobile, ça ne voudra pas vous amener où ce que vous voulez? Comment vous considéreriez que cette automobile-là est? Soit qu'elle est à cause qu'elle est brisée, soit qu'elle est mal ajustée, puis là, elle avance pas. C'est un petit peu fâchant quand tu viens pour la prendre puis tes pneus sont à terre ou qu'il y a un trouble de mécanique. Normalement, tu te grilles d'un automobile parce que tu veux te rendre à quelque part puis tu as hâte d'embarquer dedans. Tu veux même pas y penser, t'embarques, tu passes ça puis ça y va. Mais quand ça fait pas ce que c'est supposé, c'est un petit peu fâchant. Mais imaginez-vous le créateur de l'univers que je sais pas quel effort que ça y a pris pour créer tout ce qui est là puis mettre ça d'une manière parfaite comme que c'est. Puis avoir créé ces créatures. Là, il s'attend le moindrement un petit peu que les créatures fonctionnent avec ce que lui a décidé. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout mis en place, qui lui a donné le souffle de vie. Puis il s'attend, la moindre des choses, que ces gens-là reconnaissent qu'il est là, puis qu'ils disent un petit merci de temps en temps, qui sera la moindre des choses. Puis malheureusement, il y a plus que 99 personne sur 100 qui refuse de dire merci au Seigneur. Ils vont aller dire merci à un arbre ou à un autre objet que le Seigneur crée. Ils vont dire merci à un morceau de bois. Ils vont dire merci à un morceau de roche qui a été sculpté. Ils vont dire merci à n'importe quoi. Ou ils disent pas merci pantoute. Puis c'est Dieu qui a créé tout le monde. Je me mets à sa place. Puis je suis content que Dieu n'ait pas mon caractère. Parce qu'il n'y aurait plus de création. Moi, Noé, j'aurais même pas fait un permis que ça soit là. J'aurais tout effacé. J'aurais pas eu la patience comme lui a. Mais ce que Dieu voyait, lui, d'avance, il voyait qu'il y avait une brebis sur 100 à quelque part qui va l'aimer. Puis pour cette brebis-là, il a laissé faire les 99. Il est allé s'occuper de la brebis qui n'a de besoin qui est reconnaissante. C'est qui cette brebis-là, vous pensez? C'est nous. Nous sommes les seuls parmi les seuls. On est une poignée ici, là, dans Beauharnois, sur 11 000 habitants. C'est même pas une sur 100, là, quasiment. C'est quasiment un, ouais, c'est même pas. Une sur 200-300. C'est pas beaucoup. Puis Dieu, il n'a pas détruit encore Beauharnois parce qu'il est content de nous voir. Merci Seigneur. Puis pendant le temps qu'on est là, mais profitons de ces moments-là pour continuer à le remercier. Bon temps, mauvais temps, que ça y aille bien, que ça y aille pas bien. Nous, on l'aime le Seigneur, puis on veut marcher avec. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On a commencé à voir la semaine passée une étude sur la foi. On a vu la semaine passée un peu l'idée que je viens de vous apporter. Que Dieu, malgré le fait que l'ensemble de l'humanité ne voudra pas le servir puis ne voudra pas le suivre, Dieu, il a quand même décidé de créer la création puis de donner la chance au monde de vivre Parce qu'il savait qu'il y en aura quelques-uns comme ça, des quelques-uns qui vont se tourner vers lui et qui vont vouloir marcher en connexion, marcher par la foi. On a vu que c'était la seule chose que Dieu trouva agréable sur cette terre, c'est la foi. Parce que l'ensemble de l'humanité, on est tous des pécheurs. Fait que il y a aucun plaisir dans notre conduite puis dans notre marche, sauf qu'il prend plaisir de voir quelques-uns de ceux qui étaient pognés dans leur péché et tout cela, quelques-uns qui ont décidé de s'arrêter et de dire « Wow, moi, mais je pense qu'il existe Dieu, puis je veux le suivre. Je l'aime, puis je veux le connaître. Puis il m'a révélé sa parole, il m'a envoyé son fils. Ben moi, je vais m'accrocher par la foi, puis je vais marcher avec son fils. » Puis ça, Dieu prend plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à lui, puis qui veulent marcher par la foi. C'est une minorité dans ce monde. Cette semaine, on continue un peu l'étude. On veut éplucher le sujet de la foi pour comprendre plus en profondeur c'est quoi la vraie foi selon la Bible. Parce qu'on se fait une idée sur le mot foi, mais c'est vague. C'est juste une croyance. Moi, je crois. Puis là, on pense que c'est une croyance à quelque part, une petite idée qu'on a sur le sujet, puis qu'on pense que c'est ça, mais on veut apprendre à le connaître, c'est quoi. Puis, il faut comprendre que avoir la foi, c'est une chose. Avoir la foi dans quoi? Est-ce important le sujet dans lequel on met notre foi? Parce que Dieu aime qu'on marche par la foi, mais est-ce que la foi en n'importe quoi, c'est correct?
Non.
C'est important de définir quand tu parles de foi, c'est quoi le cadre, puis avec tout ce qui est décrit là, qui est le document que Dieu veut qu'on mette notre foi. Notre foi va être encadrée dans quel cadre? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la foi? J'en ai parlé un petit peu mercredi. Si tu veux apprendre comment c'est fait une souris, faut que tu commences à prendre ton scalpel, puis l'ouvrir, puis tu commences à regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu veux faire une recherche plus profonde sur la composition d'une souris, faut que tu la dissèques. T'as désassemble, t'as coupe en morceaux, là tu regardes, puis tu vois les organes qui sont là, puis t'apprends à découvrir par la recherche, avec des. Tu peux te servir des appareils qui sont autour, mais l'important, c'est d'éplucher le sujet que tu vas apprendre en l'examinant plus attentivement. Là, tu commences à la disséquer dans les cours de biologie, c'est ce qu'ils font. Puis, dans la foi, c'est la même chose. Tu vas apprendre c'est quoi la foi. Mais il faut que tu étudies. Où est-ce que tu vas étudier? Qu'est-ce que tu vas étudier? Sa parole. C'est dans la Bible, la révélation de tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est écrit dans le livre de Dieu, la parole de Dieu. Dieu a déjà donné par écrit le cadre, le livre, ce qui est important qu'on sache, puis ce qui est important de savoir. Parce que je peux dire, « Ouais, ce livre-là, il est là. C'est correct. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je vais m'inventer un livre. Je vais m'en écrire un. Puis là, je vais dire au monde, bon, on met notre foi dans cette nouvelle idée. Est-ce que ça va être équivalent? Pas du tout. Puis on peut, non seulement qu'on risque de faire fausse route nous-mêmes, puis se ramasser pas à la bonne place, disons, puis on va entraîner d'autres personnes aussi dans notre égarement. Il est important, si on veut éplucher des sujets bibliques, de regarder dans la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là. Faire une étude plus profonde, disséquer des versets qui parlent de la foi. On a vu la semaine passée que la foi, c'est une ferme assurance, une confiance que tu as dans toi. Tu as une ferme assurance, tu es sûr, tu es convaincu, personne ne peut te défaire ton idée. Quand tu as la foi, tu es convaincu. Puis, il y a deux parties dans la foi. La conviction intérieure qu'on a dans notre cœur sur le sujet et la démonstration. Une foi, là, ça doit être démontré, ça doit être visible, ça doit être vu. C'est comme un gars qui croit qui croit à une cause, puis ça va faire une manifestation, mais si ça part à quatre, il crée un autre sujet qui n'a même pas rapport à la manifestation. Il croit-tu vraiment à ce qui se fait là? Lui, là, il peut être assis dans la manifestation, là, avec sa pancarte, mais ça parle d'un autre sujet qui n'a même pas rapport avec ce qu'il veut se battre. À un moment donné, il faut être cohérent. Si on a la foi en Dieu, il faut apprendre à mettre notre confiance sur ce que Dieu a révélé, voyez-vous, et de marcher en même temps dans ce qu'on croit. Il y a une démonstration, il y a une preuve, tu démontres ce que tu crois. La foi que Dieu recherche n'est pas une confiance dans ce qui est humain, dans ce qui est physique, dans ce qui est terrestre. Tout ce qu'il y a là, c'est Dieu qui l'a mis là, bien entendu, mais il ne veut pas qu'on apprenne à mettre notre confiance dans notre humain ou dans les idées qu'on a, nos idées personnelles ou dans nos capacités, il dit dans Philippiens 3:3, on parle de l'apôtre Paul qui parle, puis ce gars-là, c'est un gars consacré au Seigneur dans l'Ancien Testament. Puis il était tellement zélé là, à suivre l'Ancien Testament comme étant un juif bien engagé, puis il servait au-delà de ce que tout le monde pouvait faire dans ce temps-là, qui était un persécuteur, un tueur de chrétiens. Lui, il se promenait de ville en ville, puis il allait tuer des chrétiens, l'apôtre Paul, puis il pensait qu'il était correct, puis il pensait qu'il était en train de servir Dieu. Puis ce gars-là, il était tous les critères qu'un juif peut avoir confiance, là, qui était un de la tribu, je pense qu'il était de la tribu de Benjamin. Lui était circoncis, il était un juif de naissance, mais il était aussi juif citoyen romain. Il était élevé au pied de Gamaliel, qui est un docteur de la loi très estimé. Fait qu'il devait avoir des beaux gros diplômes, ses murs. Il avait tout ce qu'il fallait pour être un homme bien remarquable, puis bien dans son zèle, il était excessif, là, parce que là, il tuait du monde. C'était un fanatique religieux, dans un sens, un peu comme les musulmans. Paul, comme dans les musulmans, les ceux qui sont fanatistes religieux, qui sont prêts à tuer du monde. Ah ouais. C'est pas les musulmans, mais c'est parmi les musulmans. Comme qu'il y en a aussi parmi les catholiques, il y a eu des hommes parmi les catholiques qui ont décidé de tuer d'autres religions. Du monde maniaque, il y en a, mais excessif dans leur foi. Puis ce gars-là, s'il se disait, si moi, là, je suis pas sauvé, il n'y a pas personne qui est sauvé, il se croyait le top de tout, même de tous les jeunes de sa génération, il était le plus zélé, prêt à aller persécuter les autres. C'est un leader dans le mensonge ou la mal compréhension des choses de Dieu. Puis lui, s'il aurait pu se vanter pour tous ses mérites, puis dire, je l'ai l'affaire, puis je mérite le ciel, à cause qu'il pratiquait au maximum ce qu'il pouvait. Quand il a réalisé qu'il était dans l'erreur, puis qu'il s'est converti au Seigneur, après ça, là, toute sa vie, il considérait ça comme ça, c'était rien. Il ne mettait pas sa confiance dans sa chair et dans ce qu'il aurait pu accomplir ou ce qu'il avait accompli. C'était fini. Lui, il pensait uniquement que son salut était par Jésus. Puis tout le reste était comme de la boue, que ça nous dit dans la parole. Puis dans Philippiens 3, les versets 3 à 4, ça nous dit, les circoncis, là, il parlait à des chrétiens, là, les vrais circoncis devant Dieu, les vrais engagés pour Dieu, c'est nous. Nous, les chrétiens qui ont reconnu Jésus-Christ, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Fait qu'un vrai disciple de Jésus, là, c'est quelqu'un qui marche en communion avec le Saint-Esprit, puis qui rend à Dieu un culte par le Saint-Esprit. Retenez bien cette idée-là, qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit, il marche par le Saint-Esprit, il parle par le Saint-Esprit, il rend Dieu un culte par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui l'a reçu, Saint-Esprit, qui est né de nouveau. Il dit, les vrais circoncis, c'est nous qui rend culte par l'Esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Si on a un sujet de se glorifier, c'est juste dire, je connais Jésus. puis je suis sauvé à cause de Jésus. Tout ce que Paul a fait, il aurait pu faire dans le passé, c'était rendu zéro, c'était inutile, ça ne pouvait pas le sauver, puis il réalisait. La seule chose que je suis fier, c'est de connaître Jésus. Puis il rajoute, et qu'on ne met pas non plus notre confiance dans la chair. Dieu, mettre notre confiance dans la chair, mettre le mot confiance, c'est le mot foi. Mettre notre foi dans notre chair, mettre notre confiance dans notre chair, lui dit, on ne mettait pas notre confiance, notre foi dans notre chair, dans nos réalisations, dans nos capacités, dans nos religions, dans nos belles manières comme les moins belles. On ne met pas notre confiance dans ce qu'on aurait pu faire. Un vrai disciple de Jésus marche par le Saint-Esprit. Il est fier d'appartenir à Jésus, puis il ne met pas sa confiance, sa foi dans ce que lui a pu faire ou qu'il est en train de faire. Parce que des fois, tu peux être chrétien, puis là, commencer à être fier de ce que tu fais. Ah, j'ai évangélisé, il y a du monde qui a accepté, puis là, on est comme... Un peu, on se sent élevé, puis on commence à flotter. On commence à flotter parce qu'on se pense bon dans la chrétienté. On commence à penser que ça a de l'importance aux yeux de Dieu. On commence à mettre notre confiance parce que je suis un bon gars, parce que j'ai réussi ça, 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 puis je suis capable de faire ça, ça, ça. Là, on se pense correct. Mais on est en train de mettre notre confiance, mettre notre foi dans notre chair. Quand tu es chrétien, il y a une seule place que tu mets ta confiance, c'est ta foi en Dieu. Puis la seule manière que tu veux marcher, c'est que tu vas apprendre à marcher guidé par le Saint-Esprit. De cette façon-là, tu es sûr que toute la gloire, ça s'en va à Dieu et non à l'homme. La foi que Dieu recherche, c'est une foi qui reconnaît que c'est Dieu que tu sers, par Dieu que tu sers, puis toute la gloire revient à qui? À Dieu. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a la foi dans les choses de ce monde, humainement parlant, là, tu vas voir ta religion. Il y en a qui vont y mettre leur confiance. Oh, moi, je l'aime, le pasteur à l'église, jusqu'on va. Il prêche, là, la vérité, la sainte doctrine. Oh, moi, le groupe de louanges qu'on a à l'église, c'est eux autres l'ont l'affaire, puis c'est vivant, c'est hot. Là, on élève ce que nous sommes en tant qu'Église, puis on est en train d'élever la religion dans un sens. Parce qu'on regarde aux hommes, puis on met notre confiance dans l'homme. Ça, c'est jamais l'homme. C'est toujours l'Esprit de Dieu qui fait les choses dans l'homme. Puis la gloire revient à qui? Si l'onction est là un dimanche, puis qu'on est tous bénis, la gloire revient à qui? Aux musiciens, la gloire revient-tu? Aux prédicateurs, la gloire revient 100% à Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en arrière, en dessous de ce pasteur-là qui prêche ou de ce musicien-là qui joue. Puis si c'est agréable à notre oreille, puis ça nous a bénis, puis on est sorti de là édifié, c'est à cause que c'est le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre, voyez-vous? Fait qu'on peut mettre notre confiance dans ce qui est humain, la religion, nos capacités, nos mérites, ou même où ce qu'on est rendu dans notre foi, on est fier, puis ça commence. Non. Faut pas mettre notre confiance dans ce qui est de la chair puis de ce qu'on a pu produire. Mais faut mettre notre confiance en Dieu et en sa parole. C'est les seules choses qui sont dignes de confiance. Mais si on commence, on en a parlé un peu avant la réunion, tu commences à élever un humain, puis là tu le vois tomber, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des chrétiens? Mais l'Église va manger une claque. Un pasteur qui est mis sur un pied d'estal, puis là, c'est un bon prédicateur, puis il chante, puis l'onction est là, puis à un moment donné, paf, il tombe en adultère. Là, il y a peut-être la moitié de l'Église va se diviser, va se détruire, vont se ramasser ailleurs. Il y en a qui vont lâcher d'aller à l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils regardent à l'homme plutôt que de regarder à Dieu. Jésus a dit dans Marc 11, 22, « Ayez foi en Dieu. Tout se passe là. Faut que tu aies foi en Dieu et non pas dans les hommes. C'est sûr que l'homme peut être bourré de talent. Ça se peut. Mais on va dire gloire à Dieu pour les choses que Dieu fait à travers de cet homme. Mais la gloire revient à Dieu. Puis c'est Dieu qu'on veut glorifier quand on est là. C'est Dieu qu'on veut servir. Fait que même si ce gars-là meurt, l'Église continue. Parce que l'Église, c'était l'Église de Dieu. Fait qu'il nous demande, Jésus, quand on parle de la foi, on veut éplucher la foi. Où est-ce que je dois mettre ma confiance pour grandir dans le Seigneur? Ma confiance pour me sentir épaulé. Ma confiance pour me faire encourager. Ma confiance pour me faire aider. Tout ce qu'on a besoin comme ressources. Ayez confiance en Dieu. Allez à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Priez Dieu. Louez Dieu. Servez Dieu. Puis Dieu va vous pourvoir pour le reste. C'est lui qui va le faire par en dessous. Mais vous allez être connecté dans une confiance à bon endroit. Pour développer notre idée sur la foi, puis disséquer le mot foi, là, on va voir qu'il y a une différence entre parler à Dieu. Parce qu'on peut parler à Dieu. Tout le monde peut parler à Dieu. Il y a une différence entre parler à Dieu puis la conviction intérieure qui t'amène à parler d'une manière convaincue à Dieu. Tu peux parler à Dieu sans même penser à Dieu. Tu peux en faire des récitations. Il y en a du monde qui prie, là, puis ils récitent des prières. Ils vont te réciter ça, ils vont t'en faire 25 en ligne. Ils n'ont même pas pensé une seconde à qui ce qui s'adressait, puis vouloir avec une conviction dans leur cœur qu'ils s'attendent quelque chose à celui à qui ils s'adressent. Ils n'ont même pas écouté les paroles qu'ils ont dit, c'était comme des récitations. Ah, est-ce que ça a une valeur devant Dieu? Du tout. Ça sert à rien. C'est de vaines répétitions. Jésus l'a enseigné dans un de ses enseignements, de ne pas faire ça, de faire de vaines répétitions. Ça exauce pas là, de répéter. Ah, si je peux réciter ces 20 prières-là 50 fois, puis là, vous allez être exaucés. C'est tout. C'est de la superstition, ça n'existe pas, c'est du mensonge. Mais celui qui croit dans son cœur, puis il est conscient qu'il se tourne vers Dieu, puis là, il parle à Dieu, ça a un impact aux yeux de Dieu. Ça, c'est la vraie foi qui vient du cœur. C'est cette foi-là que Dieu cherche. Des gens remplis de confiance intérieure, puis là, ils se tournent vers Dieu, ils parlent à Dieu, puis ils louent Dieu, puis ils prient Dieu. Parce qu'ils sont connectés avec Dieu. Ils vont même adorer Dieu parce qu'ils ont une communion avec l'Esprit de Dieu. Ils sont avec, ils marchent avec, ils pensent à Dieu, ils parlent à Dieu, ils ont une confiance intérieure. Ça, c'est la foi que Dieu recherche. Dans Jean 4, 24, il y a une parole que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il a dit: Dieu, il est esprit. Puis Jésus, écoutez bien celle-là, là, puis vous allez voir que la version Louis II, la manière qu'ils l'ont écrit, la phrase, là, est pas bien écrite, puis vous allez comprendre pourquoi. Il faut que ceux qui l'adorent, il dit Dieu est esprit, puis il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais c'était pas la vraie manière qu'il aurait dû écrire cette phrase-là. Vous irez voir la Bible du Semeur. Elle, ils la disent dans la bonne façon. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par le Saint-Esprit de vérité. Ça a plus de bon sens. Faut que tu sois vraiment dans la connexion par le Saint-Esprit. Si t'es né de nouveau pis t'as le Saint-Esprit, mais automatiquement, mets ta foi. Prie à Dieu par le Saint-Esprit. Ta foi va être là, ta confiance va être là dans ton cœur, puis tu parles à Dieu par le Saint-Esprit. La connexion est là, puis c'est ça que Dieu cherche, des gens qui prient par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on puisse prier par le Saint-Esprit? Ça va prendre que la personne soit née de nouveau. Dieu cherche des gens nés de nouveau, qui ont été à Jésus, demander pardon au Seigneur pour recevoir le Saint-Esprit. Après ça, ils peuvent marcher, leur vie change. Puis là, c'est des gens engagés pour Jésus, des vrais adorateurs. Il dit, c'est ce genre d'adorateurs-là que le Père demande. C'est des gens nés nouveaux. Jésus ne veut pas juste du monde qui parle à Dieu. Il veut du monde qui parle à Dieu, oui, mais parce qu'ils sont connectés avec Dieu. Voyez-vous? C'est ça qui est le but. Fait que la vraie connexion que Dieu cherche, c'est que tu parles à Dieu, tu loues Dieu, tu pries Dieu, tu adores Dieu par le Saint-Esprit. Première étape pour y arriver, passe donc par la nouvelle naissance. Va te repentir. Confesse que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour toi. Repens-toi, tu vas recevoir le pardon de tes péchés, puis tu vas recevoir le Saint-Esprit. Puis ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Puis une fois que tu l'as reçu, Saint-Esprit, marche avec le Saint-Esprit. C'est ça qui est marcher par la foi, dans la vraie foi, qui t'amène à garder un contact avec Dieu. T'écoutes le Saint-Esprit par la suite, parce qu'il est en toi. Il va te guider. Tu vas écouter des messages, des enseignements, ça, tu vas comprendre. Fait que c'est lui qui t'enseigne pour comprendre. Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, tu comprends mal. Mais il faut que le Saint-Esprit t'éclaire. Fait que toute ta vie va devenir vraie quand tu vas le vivre, être en contact avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes des êtres dotés d'une capacité de communiquer avec Dieu qui est esprit. Jésus a dit « Dieu est esprit ». Nous sommes des êtres avec la capacité de communiquer avec ce Dieu-là, puis d'être en contact avec ce Dieu-là. Pourquoi que nous pouvons être en contact avec le Dieu qui est esprit? Parce que Dieu nous a mis en nous un esprit. En chacun de vous, vous avez votre esprit. Toute notre être est composé d'un esprit, d'un âme puis d'un corps. L'esprit de Daniel Poulain, peut communiquer avec le Saint-Esprit, peut même plus que communiquer. Je peux former qu'un avec le Saint-Esprit en autant que je passe par le lavage, par le sang de Jésus en premier. Là, après ça, l'Esprit de Dieu peut entrer en moi. Là, je suis devenu connecté avec l'Esprit de Dieu. Là, je peux marcher avec Dieu. Daniel Poulain peut marcher à l'unisson avec Dieu. Puis parce que Dieu est esprit, le Saint-Esprit est esprit, puis moi, j'ai un esprit, je peux être connecté. C'est ce que ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Voyez-vous, on est formé avec un esprit, puis Dieu est esprit. Fait que Dieu a permis qu'on puisse avoir une possibilité d'être en communion. Ça, c'est la vraie foi. La vraie foi va se développer avec cela. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Par notre communion avec l'Esprit de Dieu, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu commences à être en communion avec, l'Esprit de Dieu va te fortifier. Là, c'est plus toi, là. C'est plus tes mérites, c'est plus tes capacités. On le voit ça dans Éphésiens 3, 16. Paul est en train de faire il est en train d'énumérer des points que lui prie pour les gens d'Éphèse. Puis dans sa prière, il dit qu'il priait Dieu afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Fait que le travail du Saint-Esprit, c'est de fortifier intérieurement notre être, notre âme intérieure, notre esprit. Fait que toute notre foi, la vraie foi, c'est la marche avec l'esprit, c'est de marcher en contact avec cet esprit-là, que cet esprit-là va communiquer une force à mon esprit pour que moi, je puisse faire les choses que Dieu me demande. Marcher par le Saint-Esprit, c'est de marcher dans la vraie foi que Dieu demande. Je vais être à l'écoute de sa voix, je vais avoir des dons, des capacités qu'il va me donner, il va m'éclairer, il va renouveler mes pensées parce que mon intelligence a besoin d'être effacée, j'ai besoin d'un lavage de cerveau. Tout le monde qui vient à Jésus a besoin d'un lavage de cerveau. On a tous le cerveau sale puis la mauvaise manière de penser. Il faut que le Saint-Esprit change ça puis nous amène à se soumettre à la parole de Dieu. C'est là qu'on va rentrer dans le deuxième aspect de la marche par la foi. Tu crois qu'il est là, mais c'est plus que juste croire. Parce que les démons aussi croient. Mais ils suivent pas. Pour vraiment suivre aux yeux de Dieu, faut que tu aies ce contact-là avec l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui a été à Jésus pour être pardonné, puis après ça, il demande le Saint-Esprit, puis il réalise que le Saint-Esprit est en lui. C'est que le Saint-Esprit a rentré en toi, puis a commencé une œuvre de changement, puis il te fortifie dans la foi. C'est lui qui t'amène à porter du fruit. Le Saint-Esprit est comme la sève qui coule en nous, qui fait que nos branches vont être pleines de fruits. C'est le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit, les œuvres de Dieu le Père qui sont les œuvres de l'Esprit. Tout ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, la vraie foi que Dieu demande, c'est des gens qui marchent en communion. De tels adorateurs que le Père demande, c'est des gens qui marchent par le Saint-Esprit. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a une chose que Dieu veut voir. Ben, il va en avoir plus à la longue, l'ensemble. Mais il y a une chose principalement dans le milieu, là, dans le commencement que tout se passe, c'est notre sincérité de cœur. C'est ça qui va faire. Souvent Jésus, là, tu peux l'accepter 50 fois Jésus. Puis que tu l'acceptes, tu peux même crier que tu le crois. Comme les démons crient quand ils entendent parler du nom de Jésus. Ils croient en Jésus, puis ils crient. Tu peux crier, tu peux te mettre à genoux, tu peux te rouler à terre, mais si ici tu n'as pas encore décidé, ça ne marchera pas. Faut vraiment que tu crois dans ton cœur. Pas juste le savoir dans ta tête. C'est pas qu'une idée, une phrase qu'il faut que tu apprennes par cœur, parce que tu peux en savoir par cœur la Bible, si tu n'as pas compris que moi, je le veux, je le crois, je suis convaincu et je le fais. Il n'y a rien qui va m'empêcher. Quand tu es rendu là, ça commence à être ici. Ton cœur, c'est là que ça commence. Regardez bien que dans Romains 10, le verset 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à être déclaré juste, puis c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Fait que si je prends juste la dernière phrase, quiconque croit en lui ne sera point confus. Je crois. Il y a l'idée, je crois. Mais c'est pas là. Il y a juste, je crois, je suis sauvé. Non. Faut que tu lises l'autre verset, tu dissèques le sens du mot. Faut que tu y ailles plus profond. Il te demande en premier que faut que tu le croies dans ton cœur. Faut que ça soit une conviction. T'es sûr. Puis c'est pas que t'es sûr que t'es correct. C'est même pas ça, faut que tu penses. Le sujet de faut que tu sois sûr. Jésus, il est mort, sa croix, puis il est ressuscité entre les morts. T'as juste besoin d'être sûr que ça, son œuvre à Jésus, que c'était pour toi. Là, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Jésus a été ressuscité des morts parce qu'il est mort pour moi, puis il est ressuscité pour que je sois sauvé. J'y crois, puis je veux être sauvé. Fait que là, je le crois, puis il va dire, si tu crois, démontre-le. Parce que la foi, c'est une démonstration. Comment tu vas le démontrer? Confesse-le de ta bouche. Tu le crois dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche, puis tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Fait que faut que tu aies la conviction. Puis quand tu as une conviction, tu crois, c'est pas une idée que tu vas abandonner facilement. Tu es convaincu qu'il est mort pour toi, puis tes péchés, puis tu veux l'avoir pour toi. Qui veut pas être sauvé ici? Y en a-tu qui veulent pas être sauvé? Je pense que tout le monde veut être sauvé. Mais là, les bases de la foi que Dieu recherche, il veut pas que vous ayez juste une information intellectuelle. Il veut que vous ayez une croyance de cœur, prête à vous battre, prête à mourir pour ce que vous croyez. Faut que tu aies ton cœur qui y croit. Ça, c'est la vraie foi que Dieu demande. Une fois, là, que quand tu l'as, cette conviction-là, première étape, tu vas le dire à tout le monde. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés, puis tu n'as pas peur de le dire. C'est ça, la foi. Tu vas le confesser de ta bouche. Tu vas démontrer. Parce que la foi, c'est une conviction et une démonstration de ce que tu crois. Ta démonstration va être, tu vas commencer par le confesser, tu vas vouloir être fait baptiser d'eau, tu vas vouloir aller à l'église, tu vas vouloir que Dieu change ta vie, tu vas vouloir lire la parole pour la comprendre, tu vas vouloir évangéliser, tu vas vouloir servir Dieu, tu vas vouloir grandir dans le Seigneur, tu vas vouloir, ta foi se démontre de plus en plus par, tu vas être à la réunion de prière, tu veux... Ta foi, tu es tellement convaincu que ça va t'amener à ta vie, ça va être visible que tu es un gars qui aime le Seigneur. Il n'y a rien qui se fait en cachette, autrement dit. Dans ta chambre, puis de rester là toute ta vie. Non, non, Dieu t'appelle à bien plus que ça. Il veut même se servir de toi pour pouvoir parler à plein de monde. Puis que tu ne sois même plus gêné de parler parce qu'il se passe tellement de belles affaires que tu vis, ta foi va augmenter parce qu'on va le voir dans les semaines futures. La foi, ça l'augmente. Ça grandit. On peut faire de l'exercice. C'est comme un muscle. Tu fais de l'exercice, il peut grossir. La foi, c'est la même affaire. Notre confiance du cœur nous amène à confesser de la bouche puis à poser des gestes concrets. La foi du cœur en Dieu et en sa parole, parce que où est-ce qu'on a appris ce qu'on doit mettre notre foi, là? Où est-ce que j'ai appris que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité? C'est dans la Bible. T'as pas le choix que ta foi va être pas juste dans la phrase qui dit que Jésus est ressuscité dans les morts. C'est tout le livre. Parce que des fois, on peut prendre, « Ah, ben moi, j'ai accepté Jésus, j'ai mis ma foi dans ce verset-là. » Moi, mais ce verset-là parle de ce sujet-là, mais il y a aussi d'autres choses que Jésus a dit. Y a-tu aussi d'autres choses que Jésus a dit? Là, tu commences à lire toute la vie, tu t'aperçois qu'il y a bien des affaires que Jésus t'a dit. Fait que faut que tu t'élargisses dans ta pensée, que c'est tout le livre qu'il faut que tu prennes. La foi du cœur en Dieu et en sa parole, c'est une force spirituelle. Parce que quand tu l'as, cette foi-là, produit en toi, là, le Saint-Esprit, il te fortifie puissamment, tu deviens équipé, t'as plus peur, t'es plus gêné, t'as un zèle, t'as un feu, t'as un désir, tu veux, ça devient une force spirituelle. La foi en Dieu, en sa parole, ça devient une force spirituelle, premièrement, qui nous sauve. Puis après ça, ça nous fait avancer dans le Seigneur. C'est notre foi qui va nous faire avancer, qui va nous faire grandir. Les gens de petite foi, mais il se passe à rien. Ou pas de foi du tout, il n'y a rien qui se passe. Avec petite foi, tu peux vivre des affaires, mais il va t'être fait selon ta foi. Puis plus que tu as la foi, mais plus qu'il va se passer des belles affaires. C'est de même, ça marche. Tout se passe par la foi. Mais de la foi, ça grossit aussi. Puis plus que votre foi va grandir, plus vous allez vivre des choses avec le Seigneur. Dans Romains 1, 16 et 17, ça nous dit que Paul, il n'avait pas honte de l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Où est-ce qu'a été écrit l'Évangile? Mais tu as premièrement les quatre Évangiles, tu as l'histoire de Jésus. Mais il dit, j'ai point honte de cette histoire-là, de l'Évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit, c'est pas juste un petit livre, là, c'est pas juste des écrits, c'est pas quelque chose de léger, c'est pas quelque chose de qui sans valeur. L'Évangile, la bonne nouvelle qu'on retrouve là-dedans, c'est une puissance qui sauve des vies. Quelle vie qui va être sauvée? La première vie, c'est celui qui l'a reçue. C'est ta vie, t'es ta mort spirituellement avant d'être sauvé. Tu t'en vas dans l'étang de feu pour l'éternité. Puis si tu ne passes pas à Jésus selon le message de l'Évangile, puis le recevoir avec foi, tu es perdu, on ne te reverra pas dans l'éternité. Si tu veux rentrer dans le ciel, il y a une seule manière pour y rentrer. Il faut que tu ailles à Jésus. Il y a une seule porte, puis il n'y a pas deux portes. Il n'y a pas deux manières d'être sauvé. C'est faut que tu y ailles, tu as fait laver de tes péchés. Puis là, par la foi, tu y vas, tu y crois dans ton cœur, tu veux le recevoir. Tu y crois dans ton cœur, tu vas y demander pardon au Seigneur, puis tu vas le recevoir. Après ça, tu vas être capable de le confesser. Ta vie va commencer à changer. Tu dis, comment ça se fait? Ça change, mais c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à changer. Puis là, tu vas être une nouvelle créature. Il n'y a pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de n'importe qui veut croire. Si tu as la foi, tu veux y croire, tu as cette conviction dans ton cœur, tu vas être sauvé. Puis juste le verset 17, il dit, parce que en Jésus est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Fait que, il dit, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puis il dit, c'est un message-là de Jésus qui est écrit dans cet Évangile-là. Par la foi que tu le saisis, c'est pour la foi. Ça veut dire, tu viens à Jésus par la foi, là tu le prends, là t'es sauvé, puis c'est pour la foi parce que la foi commence à marcher. Tu commences quand tu le saisis, tu par la foi, ça veut dire tu le saisis par la foi, après ça tu vas marcher par la foi, ça symbolise qu'il y a une continuité de marche par la foi. Pas juste le jour que tu as accepté. Tu dis pas, oh, j'ai accepté Jésus. Oui, mais je suis encore en Jésus. Puis je marche encore par la foi. Je continue à grandir dans le Seigneur. Puis je continue à marcher avec le Seigneur. Puis je suis à l'écoute du Seigneur. Puis je connais la parole du Seigneur. Puis là, j'avance avec le Seigneur. Ta vie change. Tu deviens un disciple. Vous allez le voir dans d'autres versets. L'Évangile. Quand on dit, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Mais l'Évangile, c'est les Saintes Écritures. C'est la parole de Dieu. Tu te trompes pas quand tu lis ça. Puis demande au Seigneur qu'il t'éclaire. Puis si tu doutes puis tu crois pas, demande au Seigneur de donner une conviction. Parce que t'as peut-être de quoi qui te bloque, qui t'empêche de comprendre. Si le monde comprend pas, je vais le dire simplement, si quelqu'un voit pas briller la puissance de l'Évangile, la Bible dit c'est pourquoi. C'est parce que le Dieu de ce siècle nous a aveuglé l'intelligence. C'est parce qu'il y a un mauvais esprit qui travaille dans la personne puis qui l'empêche de voir la puissance de l'Évangile. Si tu lis la Bible et tu n'es pas conscient de la puissance de la Bible puis de ce qu'elle peut apporter à quelqu'un, c'est parce que tu es aveuglé par un mauvais esprit dans ta vie. Tu as besoin d'une délivrance. Demande au Seigneur qui enlève cet esprit-là, puis qui te libère. Ta vie va commencer à changer. Tu vas dire, waouh, c'est donc bien beau, je veux comprendre, je veux tout savoir, je veux connaître, je veux mettre en pratique. Dieu recherche une ferme assurance basée dans les Saintes Écritures, dans les déclarations de ses promesses, parce que la Bible est pleine de promesses pour celui qui veut marcher avec lui. Fait que, c'est quoi la foi? On est en train de disséquer la foi, là. La foi, c'est une ferme confiance dans les Écritures pour saisir ce qui est là, puis là, tu commences à le confesser. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu veux grandir, tu veux te fortifier, tu veux devenir un soldat de Jésus, lis la Bible. Tu peux pas le devenir sans lire la Bible ou l'écouter, parce que si tu as de la misère à lire, tu peux l'écouter, être en format audio. Mais il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu, il faut que tu l'apprennes, puis il faut que tu passes des heures. Tu peux pas l'apprendre par cœur d'une journée. Même si tu la lis, à peu près 5-6 heures par jour, là, Tu peux peut-être la lire, le Nouveau Testament, en une semaine. Mais il faut que tu passes des heures. Ça s'écoute facilement d'une semaine avec les MP3. Mais est-ce qu'on, la foi, on parle de la foi, là, la ferme assurance, là, qui va t'amener à que ta vie soit sauvée puis changée, mais cette foi-là va venir de ce que tu entends, puis ce que tu entends, ça vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes d'autres choses, tu grandis pas dans la foi. Si même le contraire, si tu écoutes trop d'affaires du monde, il y a des affaires qui vont détruire ta foi. Ils vont te réduire ta foi. Ils vont l'affaiblir ta foi. Ils vont te refroidir. Parce qu'il y a d'autres esprits dans ça. Si tu prends de ce qui est de l'esprit du monde, puis tu laisses rentrer ça, dans l'esprit du monde, il y a des choses qui détruisent ta foi. Tandis que si tu nourris de la parole de Dieu, c'est les choses saintes, vraies, véridiques, pures, puissantes de l'Esprit de Dieu qui ont été écrites là, inspirées par Dieu. Ça pénètre ton esprit, puis ça nourrit, ça booste ta foi. Ta confiance dans ton cœur va grandir, puis tu vas être prête à aller de l'avant pour le Seigneur. Lorsqu'on parle de la foi en Dieu, nous ne pouvons séparer Jésus d'avec sa parole. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'il y a des églises aujourd'hui, il y a des chrétiens, disons, pas des églises, des chrétiens, ils ont accepté Jésus, mais quand tu leur parles d'un point à mettre en pratique qui est écrit dans la parole, « Oh, mais ça, c'était dans ce temps-là. Oh, ça, c'est pas important. Oh, aujourd'hui, tout le monde fait le contraire. Puis ils tassent la Bible. » Elle n'a plus l'autorité que elle sera supposée d'avoir. Ils ont oublié que la Bible, c'est les paroles de Jésus. Ils veulent Jésus, mais ils veulent pas rien savoir de ce que Jésus a dit. Ça marche pas. Si tu mets ta foi en Dieu, tu vas mettre ta foi en Dieu, l'Esprit de Dieu, le Jésus, Dieu le Père, et la parole de Dieu. Tu peux pas prendre juste Dieu, après ça, tu dis, mais la parole, c'est pas important, puis on tosse la parole. Tu peux pas. Tu prends les deux. Ta foi doit être dans les deux. Y a-t-il un verset qui dit ça? Oui, allez dans Jean, chapitre 15, le verset 7. Jésus a dit, je sais pas si c'est... C'est Jésus qui l'a dit. Quand c'est Jésus qui l'a dit, je pense qu'il doit savoir ce qu'il dit. Si vous demeurez en moi, donc il faut que tu mettes ta foi en Jésus, il faut que tu demeures dans la foi en Jésus. Il n'y a rien d'autre qui compte que la foi en Jésus. Demeure en Jésus. Parfait. Ta confiance est en Jésus. Mais il a rajouté aussi, et que mes paroles demeurent en vous. Oups! Pas juste Jésus. Jésus et sa parole. La Bible. Hein? C'est ce qui est écrit. Tout ce que Jésus a dit, ce que les apôtres ont enseigné, parce que ce que les apôtres ont enseigné, c'est inspiré par Jésus. Jésus leur a dit de nous dire ça. C'est même si Jésus les a pas toutes prononcées avant, il dit, vous pouvez pas encore tout comprendre, mais vous allez comprendre une fois que le Saint-Esprit va être là. Fait que quand le Saint-Esprit est venu dans les apôtres ont eu les autres révélations, puis ils nous ont donné le reste qui sont dans les épîtres. Fait que quand tu prends le Nouveau Testament, tu as l'histoire de Jésus, les enseignements de Jésus et l'enseignement des apôtres. Tu prends tout, là, ça vient tout de Jésus. Fait que tu prends Jésus et tu prends la parole de Dieu, le Nouveau Testament surtout, mais l'Ancien est aussi la parole de Jésus, la parole de Dieu. Mais ce qui s'adresse de la Nouvelle Alliance, c'est dans le Nouveau Testament, tu prends ça, puis tu prends les deux ensemble. Jésus et sa parole. Faut que les deux soient là. Faut rester dans les deux, mettre notre foi en les deux. Puis si on voit quelque chose qui est écrit, c'est marcher par la foi, c'est aussi important d'écouter la voix de Jésus dans notre esprit, marcher par le Saint-Esprit, c'est aussi important ça, mais c'est aussi important aussi de lire la parole, puis de marcher dans la parole, obéir à la parole. Puis Jésus ne demandera pas par son esprit des choses qui sont contraires à sa parole. Sinon, ce n'est pas Jésus qui parle. Parce que des voix, là, on entend des voix. Il y a la voix de Jésus, du Saint-Esprit, il y a la voix de l'Esprit, des esprits que dans ce monde, les démons parlent. Puis ça peut sembler être Jésus, mais il faut y aller vérifier dans la parole de Jésus. Puis Jésus n'a pas changé rien. Ça reste, il dit, ma parole demeure éternellement. Fait que ce qui est écrit là, ça change pas. Tu peux avoir une 100% confiance que Jésus n'ira pas au-delà de ce qu'il a déjà déclaré. Tout ce qui est là va rester là, puis c'est ses paroles qu'il a dit qui vont demeurer, qu'à la fin, le monde va être jugé face à sa parole. Fait que, même si les gens aujourd'hui se pensent, parce que des églises comme ça, puis c'est pas mon problème, mais je vous le dis pour pas que vous embarquiez là-dedans, il y a du monde, ouais, mais ça, c'était dans ce temps-là, puis ça, c'est pas important, puis ça, c'est, moi, il arrache des pages dans le Bible. Il lui reste juste la page de Jean 3,16, puis la page de Romains 19. Le reste, ils ont tout arraché, parce qu'ils veulent pas mettre en pratique à rien. Mais nous, c'est le contraire. Tout ce qui est là, on le veut, même si on a de l'air rétrograde, même si on a de l'air vieux jeu, on a de l'air des old-timers, c'est pas grave. On veut mettre en pratique ce que Jésus nous demande.
Amen.
Gloire à Dieu. Puis dans la foi, la puissance de Dieu qui délivre, c'est bien plus que juste une croyance en Jésus. Jésus l'a dit dans Jean 8, 31 et 32. C'est croire en Jésus et aussi demeurer dans sa parole. Si tu veux vraiment recevoir les délivrances de Jésus, c'est croire en Jésus, mais demeure aussi dans sa parole. Il s'est écrit dans Jean 8, 31 et 32. Il y avait des gens qui croyaient en Jésus. Puis on dit, on croit en toi, Jésus. Jésus leur a répondu à ceux qui disent ça. Là. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Wow! Là, il y en a un paquet que... Ils croient en Jésus, mais c'est pas tout du monde qui veut le suivre, Jésus. Fait qu'il dit, il dit à ce monde-là, si tu crois, là, parfait, tu crois en moi, c'est correct. Jésus lui dit, tu crois, c'est correct. Mais si tu crois en moi, tu vas aussi demeurer dans ma parole. Puis là, vous allez connaître la vérité. Puis là, la vérité vous affranchira. Tu vas avoir des délivrances dans ta vie. C'est pas juste de penser à Jésus. C'est de t'engager à suivre Jésus. Passe donc par la repentance au pied de demander pardon au Seigneur pour que son sang pardonne, tu purifies, puis là, tu vas recevoir le Saint-Esprit, ça fait partie de la parole de Jésus. Tu veux garder sa parole, passe donc par la nouvelle naissance, puis après ça, engage-toi avec une foi dans ton cœur à vouloir commencer à confesser puis démontrer que tu crois. Ta vie va changer, puis tu vas avoir des délivrances. C'est ça que ça nous dit dans ce verset-là. La foi est démontrée par des pas dans la direction de ce que tu crois dans la parole de Dieu, puis dans la direction que le Saint-Esprit va te donner. Les deux vont te parler. Le Saint-Esprit nous parle régulièrement par des prêches. T'écoutes une prêche, là, il te fait cliquer sur des affaires. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Fait que la voix de Dieu, tu l'entends. Puis quand tu lis la Bible toi-même, la parole de Dieu va te parler. Fait que la vraie foi... C'est quand tu marches dans la parole de Dieu, puis dans l'écoute de ce que Dieu dit. Ça nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Une confiance en Dieu, dans notre cœur, on croit en ce qu'il dit, puis on croit en ce qu'il nous a écrit. Amen.
Amen.
C'est important ce que je suis en train de dire là. On est en train de disséquer la foi. Mais pendant que j'explique ces affaires-là, il y a peut-être des gens qui se disent, moi là, je me suis déjà peut-être engagé, mais là, je suis pas dedans. Je veux m'engager. Je veux suivre Jésus. Je veux, ça commence là, mon cœur commence à croire, puis je veux m'engager, puis je veux pas passer à côté. Parce qu'il y en a qui vont passer à côté. Il y a plein de monde que Dieu aime qui ne rentreront pas. Dieu aime tout le monde en passant. Même si, d'un autre côté, il est en colère de la manière dont les gens vivent, il aime le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il y a des gens ici qui veulent la vie éternelle, qui veulent le recevoir, je vous donne l'occasion d'accepter Jésus. Je vous donne l'occasion de l'accepter parce que la vie est courte. On ne sait même pas si on va être là demain. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est devant Dieu. On veut le croire dans notre cœur, puis on veut commencer par le confesser de notre bouche. Je vais faire une prière tout haut pour donner l'occasion à des gens de l'accepter. Faites cette prière avec moi pour le recevoir puis de vous engager. Puis le Saint-Esprit va faire le reste dans votre vie. Il va vous conduire dans le reste de la vérité. Mais recevez-le maintenant. Père, faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu l'entend. Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne vos péchés. C'est par la foi que vous saisissez le cadeau. Vous mettez votre foi, vous croyez, Dieu vous le donne. Il n'est pas menteur. Il vous donne le Saint-Esprit, vous avez une nouvelle vie qui commence, marchez avec le Seigneur. Puis allez dans une église régulièrement pour apprendre à connaître la parole de Dieu, pour que vous soyez des gens qui maîtrisent les sujets, pour être capables de leur transmettre à d'autres, pour en sauver d'autres. Dieu veut sauver tout le monde ici autour. Fait qu'il charge des ouvriers, des soldats. Engagez-vous. Marchez pour le Seigneur. Marchez par la foi. Amen.